italiens qui font trembler l'Europe. À gauche, Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles. À droite, Matteo Salvini, chef de l'extrême droite italienne. Ils ont concocté un programme économique choc. Baisse des impôts sur les revenus de 23 à 15%. Les impôts sur les sociétés de 43 à 20%. Un revenu universel de 780 euros et un calcul de la retraite plus avantageux. Les Italiens sont plutôt dans l'expectative.
J'espère que ce sera positif pour nous, les jeunes, pour les retraités, pour les travailleurs qui ont été mis au chômage à cause des anciens gouvernements.
D'un point de vue économique, comment veulent-ils faire? Le problème, c'est pas ce que tu veux faire, mais comment tu vas le payer.
Un programme estimé à plus de 100 milliards d'euros pour un pays déjà surendetté. Alors comment financer ces mesures? Les deux leaders italiens proposent de renégocier avec la Banque Centrale Européenne, totalement irréaliste pour la plupart des économistes.
Il y a deux possibilités. Soit l'Italie sort de l'euro et fait défaut, ce qui aura des conséquences énormes sur la situation économique. Soit l'autre possibilité, c'est que le programme ne soit jamais mis en place.
Après avoir consulté ce week-end leurs militants par Internet, les deux hommes présenteront lundi leur programme au président de la République italienne en vue de former éventuellement un nouveau gouvernement, un gouvernement anti-système et anti-Europe.
Voilà, un gouvernement anti-système et anti-Europe en même temps. Luigi Di Maio et Matteo Salvini sont quand même revenus sur un certain nombre de projets, mais ça commence mal pour cette nouvelle coalition.
Ça commence très mal. D'ailleurs, ils font un accord, le jour suivant ils l'échangent, le jour suivant ils ne savent pas.
Et en une semaine, ça peut évoluer.
À chaque trois quarts d'heure, ils se disputent sur quelque chose. Et d'ailleurs, tant que je ne vois pas ce gouvernement, hein, avec le nom du chef du gouvernement, parce qu'on n'a même pas le nom du chef du gouvernement.
Voilà. Aucune idée non plus sur le nom.
Sur le chef du gouvernement, aucune idée. Il y a des noms qui circulent, mais aucune idée. Sur le chef du ministère de l'Intérieur, ce sera ou Salvini ou l'un de ses amis les plus proches. Ça signifie que la stratégie de l'Italie sur la question de la migration, Salvini fait partie du même groupe parlementaire européen que Marine Le Pen, et il a des positions plus dures sur la question de l'immigration que celle de Marine Le Pen.
Que du Front National en France.
Du Front National en France. Donc ça signifie que l'Italie va tout faire pour pas seulement fermer ses frontières, mais aussi pour chasser les migrants. Ça signifie que l'Italie va se trouver dans une situation très difficile à gérer. Ceci dit, l'Europe aurait pu avoir une attitude plus clairvoyante vis-à-vis de la question de sa compréhension et de son aide à l'Italie par rapport à la question.
Voilà, c'est un petit peu un retour de bâton. L'Europe a laissé l'Italie seule face à cette question de l'immigration.
695 réfugiés passés par l'Italie. La France a pris seulement 695 réfugiés.
Contre les 5000
d'Allemagne. Non mais, oui, alors moi... On a de la chance en France, hein, parce que la perspective d'avoir un mélange de Le Pen et de Mélenchon...
Oui, c'est comme une alliance, Le
Pen-Mélenchon en France. L'Europe a été en dessous de tout en laissant l'Italie gérer toute seule la question. Mais ça, on pouvait le prévoir et le prédire depuis de longs mois et personne ne s'en est inquiété. Mais maintenant, maintenant qu'on a dit ça, il faut voir ce qui va se passer après et dans les autres pays. Parce qu'on parlait de la Pologne, de la Hongrie, là c'est quand même le voisin le plus proche de la France, c'est l'Europe du Sud, c'est l'Europe occidentale qui tombe, enfin qui tombe, entre guillemets, hein. Mais l'histoire n'est pas du tout finie, et il va falloir un jour quand même poser des questions sur la table de manière différente, voir pourquoi il y a une rupture si incroyable entre les élites et les peuples, parce que le problème il n'est pas que entre, on a dit, il y a des divisions entre l'Europe de l'Est, qui n'a jamais vu de migrants de sa vie, etc., et l'Europe de l'Ouest, etc. Non, c'est faux. Il y a une division entre les élites et les peuples, mais cette division, elle se retrouve aussi ici. Et il va falloir faire très très attention, parce que le phénomène migratoire ne va absolument pas, non seulement il ne va pas s'arrêter, non seulement il ne va pas se freiner, non seulement l'Italie n'arrivera pas à fermer ses frontières, pas plus que la France, pas plus que l'Europe. Il va falloir trouver des moyens de freiner l'immigration en amont, en faisant redémarrer des projets de développement mais gigantesques. Sinon, cet exemple italien, selon moi, va se répandre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît d'une évidence
absolue.
Marianne Bonzon, s'il vous plaît.
Tout à fait d'accord avec vous.
D'autant plus, lorsque je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, mais d'autant plus qu'il y avait un peu l'idée quand même au sein de l'Union européenne qu'il fallait se resserrer sur le premier cercle. Genre France, Allemagne, Espagne, Italie, et que bon, on n'arriverait jamais, voilà, il fallait qu'il y ait ce moteur-là. Or, avec l'Italie, effectivement, là, ce premier cercle se réduit, d'autant plus qu'il y a Brexit, les
Anglais. Thierry Coville ?
Non, je voulais noter le lien avec le débat précédent, c'est que, très clairement, si on veut être fort, et là, c'est le moment, je pense, d'être fort, d'avoir une politique extérieure européenne véritable, parce que là, c'est un moment de vérité, bah, il faudrait peut-être qu'on ait une politique à intérieur un peu plus inclusive et qu'on pense à la collectivité, etc. Je pense qu'on paye, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais on paye aussi avec l'Italie le fait que pour vis-à-vis de la zone euro, on l'a donné comme seul horizon l'austérité. Il n'y a qu'à voir comment on a parlé, comment on a négocié avec la Grèce avec un mépris total. Donc il y a un lien, on veut être fort à l'extérieur et c'est le moment, je pense qu'il faudrait peut-être changer peut-être de stratégie à l'intérieur.
Justement, l'Italie exit la sortie de l'Italie de l'Union européenne n'est pas envisageable. Ils sont revenus sur cette mesure, cette coalition est revenue sur cette mesure, c'est déjà une bonne nouvelle.
Sortie de l'Union européenne est impossible pour l'Italie.
Mais ils sont revenus, cette coalition,
oui,
cette nouvelle coalition est revenue sur cette mesure.
Ils ont découvert que 2 plus 2 fait 4. Maintenant, peut-être qu'ils découvriront aussi que 4 plus 2 fait 6. Ils commencent après une vie de démagogie et de populisme parfois grotesque, ils découvrent qu'en nature il y a des règles.
Voilà, c'est le principe de réalité qui l'emporte.
Non, ce qui commence à l'emporter. Hein. Ensuite, il y a toute une série de choix à faire, parce qu'on ne peut pas présenter un budget avec un déficit de 100 milliards d'euros, de 110 milliards d'euros en plus, et prétendre que ça tombe du ciel, l'argent tombe du ciel, ou en plus ils veulent réduire les impôts, parce que les deux programmes économiques sont extraordinaires.
Oui, alors la baisse d'impôts, le revenu de citoyenneté, voilà, qui est l'équivalent du revenu universel, plus ou moins.
Les
conditions de départ à la retraite.
Les Anglais veulent introduire le revenu universel et la Ligue veut baisser les impôts. Ils font un programme où ils mettent les deux choses ensemble. Donc, où l'Italie trouve du pétrole d'aujourd'hui, le lendemain, chez moi, dans ma province, dans ma campagne,
où ça devient un problème. Ce n'est pas prévu pour le moment. Mais est-ce que Bruxelles a les moyens de mettre la pression comme elle l'a fait avec la Grèce, par exemple ?
Bruxelles a les moyens de dire, écoutez, si vous ne respectez pas vos engagements de façon tellement écrasante que vous allez tout déchirer, alors vous avez un problème de taux d'intérêt. Parce que le problème n'est pas Bruxelles, c'est le taux d'intérêt. L'Italie est un pays endetté pour 2300 milliards d'euros, 131,5% de son PIB. Elle doit refinancer cet emprunt constamment en émettant des bons du trésor. Si l'Italie n'a pas de la crédibilité, ce n'est pas question de Bruxelles, c'est les marchés financiers qui achètent, c'est ceux qui ont des économies qui achètent des bons du trésor de chacun de nos pays. Si l'Italie perd de la crédibilité, elle doit payer plus pour refinancer sa dette. C'est-à-dire, à la place de construire des écoles, des hôpitaux, on va dépenser pour seulement payer ceux qui achètent des bons du trésor italien. Le problème est là. L'Italie est un pays endetté et si elle sort de l'euro, si elle perd de la crédibilité, alors elle devra payer énormément plus.
Thierry Govic, du coup, c'est un programme qui va droit dans le mur.
Non, mais si vous voulez, je pense que c'est un problème qui existe depuis longtemps dans la zone euro. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine coordination des politiques économiques, donc chaque pays ne peut pas faire n'importe quoi en matière de politique budgétaire.
Il y a des règles budgétaires.
Voilà. Le problème, c'est qu'il faut peut-être dépasser cet horizon. Ça fait longtemps qu'on parle en Europe, dans la zone euro, d'avoir une politique de relance, des grands travaux. Il y a plein d'économistes qui disent maintenant sur les nouvelles technologies, etc., il faudrait qu'il y ait des grands travaux, enfin de la dépense publique. Je veux dire, l'État peut avoir un rôle important à jouer. C'est peut-être aussi le moment de changer de politique économique, de penser plus à la relance budgétaire. Enfin, si les États-Unis sont sortis de la crise des subprimes plus rapidement que nous, c'est qu'ils n'ont pas hésité à avoir un déficit public, je crois, qui a atteint 12% du PIB. Donc ils sont bien moqués de ces fameux équilibres. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de changer un petit peu notre fusil d'épaule et d'arrêter de parler d'austérité tout le temps, quoi.
Oui, on dit beaucoup quand même que l'administration, enfin qu'il y a des possibilités avec l'Italie d'être étonnée parfois. Est-ce que vous qui connaissez, qu'il pourrait y avoir une résistance de la bureaucratie, de l'administration, il pourrait y avoir des... Est-ce que c'est quelque chose, effectivement, il y a une marge de manœuvre?
Oui, il y a une marge de manœuvre, il y a un président de la République, une personne de bon sens. D'ailleurs, quand ils ont été, il y a une semaine, à présenter leur programme, Salvini et Di Maio, au président de la République, au palais du Quirinal, le président de la République, maintenant vous réécrivez votre copie. Ils ont réécrit leur copie, parce qu'il y avait des points qui étaient anticonstitutionnels. manifestement anticonstitutionnel. Donc, ils ont changé déjà 3-4 fois leur copie. Et là, s'ils veulent gouverner, ils doivent garder les pieds sur terre. Hein, parce que la démagogie sert en campagne électorale. Et si on veut gouverner, il faut garder. Sinon, s'ils préfèrent continuer sur leur logique populiste, alors il y aura d'autres élections anticipées, forcément.
Et à un an, justement, des élections européennes, l'Europe a vraiment de quoi
l'Europe doit s'inquiéter pour plusieurs pays, dont
par rapport à l'Italie et aux autres pays également de l'Union.
Bah, on trouve que Macron est quand même très seul, cette histoire. L'histoire des listes européennes, par exemple, qui voulaient communes, ça a été retoqué, tout ce qu'ils proposent, les réformes de la zone euro, on va voir ce qui sort en juin, là. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose. Merkel a quand même été assez affaiblie, n'a pas voulu tellement jouer le jeu. Donc c'est vrai que là, c'est Macron qui quand même est extrêmement constructif, enfin, qui propose pas mal et est un peu solitaire.
Les deux réacteurs, c'est le réacteur français pour l'instant qui fonctionne à plein régime. Et l'allemand, c'est un petit peu ralenti et c'est... Et c'est terrible parce que c'est dans tous les domaines comme ça. C'est quand même, tu parlais de l'Allemagne au niveau économique, mais on pourrait parler aussi au niveau de la défense et au niveau militaire. C'est exactement pareil. Là, malgré toutes les promesses de l'Allemagne, l'élan s'est arrêté, a été coupé par les élections allemandes. Et aujourd'hui, nos principaux alliés, c'est important les questions militaires parce qu'on est toujours dans des opérations extérieures et que si on doit un jour exister face aux États-Unis de Donald Trump, ça va passer par une consolidation de nos armées. Donc c'est très très important. Et aujourd'hui, notre seul allié, notre principal allié en France, c'est la Grande-Bretagne qui n'est plus... dans quelques
et
semaines.
Et on en saura plus donc